Écoute. Écoute.
Bonjour, mon invité aujourd'hui est Jean-Christophe Ruffin, qu'on ne présente pas, académicien, diplomate, humanitaire. Vous avez fait plusieurs métiers, également du cabinet ministériel, plusieurs missions, d'ailleurs aussi bien en Afrique que dans les Balkans, au moment des grandes crises auxquelles la France était confrontée. Alors Jean-Christophe, on va profiter de ta présence pour faire un peu un tour d'horizon, puisque tu as un regard acéré à la fois sur la façon dont se fait la politique étrangère française et aussi la façon dont elle est perçue à l'extérieur. Et peut-être pour ouvrir la conversation, comment vois-tu dans tes différents contacts, différents voyages, est-ce que il y a une image, est-ce que la France est toujours un pays qui est connoté de façon un peu différente, qui est toujours considéré comme ayant une diplomatie spécifique auquel il faut faire précisément, plus précisément attention?
Alors, d'abord, on a des singularités qui demeurent, notamment l'universalité de notre réseau diplomatique. Ça, c'est une particularité. Il n'y a plus beaucoup de pays qui aient des représentants partout. C'est le cas de la France. Bon, on n'est pas revenu sur cette dimension, et d'une certaine manière, c'est bien, parce que c'est quand même quelque chose qui nous permet d'être beaucoup plus efficace. Moi, j'ai été en poste dans deux pays en même temps, Sénégal et Gambie, comme ambassadeur, parce que traditionnellement, depuis maintenant une vingtaine d'années, il n'y a plus d'ambassade en Gambie, c'est l'ambassadeur de France au Sénégal, à Dakar, qui couvre la Gambie. Bah, l'expérience m'a montré que, en pratique, on n'y va pas, c'est-à-dire qu'on ne va qu'à l'endroit où on est en poste. Et donc ça c'est quand même très important, il y a cette présence, mais une présence qui est, j'allais dire, donc sympathique, parce que elle permet d'enraciner la France dans, grâce à des personnes. Hein, on a des ambassadeurs, on a des instituts français qui restent souvent dans beaucoup de pays. D'ailleurs, les seules personnes, les seuls endroits où il se passe quelque chose, il y a une certaine liberté de ton, etc. Donc ça, c'est il reste cette singularité française.
Est-ce que c'est pas un peu rogné chaque année par la réduction des crédits du fait que le budget du Quai d'Orsay est censé, notamment son action culturelle, est sans cesse mis en cause?
Oui, mais pour le moment, disons que ce réseau existe toujours. Bon, la réforme de l'Institut français a été complètement ratée, il faut bien le dire, puisqu'il était question, en fait, il y a une dizaine d'années, que l'Institut français devienne un instrument autonome, c'est-à-dire qui regrouperait vraiment une politique cohérente de la France. Une sorte de British Council à la française, on disait. Bon, les diplomates n'ont pas voulu, ils ont repris la main là-dessus, et aujourd'hui, l'Institut français n'est qu'une sorte de bras armé, et de moins en moins armé, comme vous le dites, de la diplomatie générale. Bon, c'est la branche soft power, pour parler français, de la diplomatie française. Mais enfin, elle existe, c'est-à-dire que elle est pilotée par la diplomatie, elle n'est pas du tout indépendante, mais quand même, elle existe. Ça, faut le saluer. C'est fragile, parce que notamment, il y a une autre question, qui est celle des lycées français, qui est absolument, à mes yeux, essentiel, parce que ce qui fait la singularité aussi de notre présence, hein, c'est ce soft power, justement. Et les lycées français, c'est un des instruments essentiels pour le maintien de cette influence, parce que les lycées français produisent des francophones, produisent des gens qui connaissent notre culture, qui ont une sorte d'appétit, j'allais dire, pour nos valeurs aussi, hein, qui les partagent. Et ça, c'est quelque chose qui, là aussi, n'a pas été détruit, mais n'est pas en progression, c'est moins qu'on puisse dire.
Globalement, en Afrique, on a l'impression qu'on est toujours un peu dans l'entre-deux, le débat éternel, on dénonce la France-Afrique et on maintient des liens avec des gens qui sont au pouvoir depuis 30, voire 40 ans, qui ne représentent pas vraiment l'avenir du continent africain. Tu as été ambassadeur au Sénégal, tu as fait de nombreuses missions humanitaires en Afrique. Et certains reprochent à la politique actuelle, et pas selon Macron, c'était déjà le cas auparavant avec Hollande et Sarkozy, finalement, de ne pas préparer l'avenir et de ne pas être suffisamment en phase avec les nouvelles générations africaines. Est-ce que le fait d'aller aux obsèques d'Idriss Déby, qui n'était pas un paragon de vertu, est une erreur? Est-ce que se maintenir des liens avec les Paul Biya ou Sassou Nguesso n'est pas une façon d'injurier l'avenir?
Alors, oui et non, c'est-à-dire que ce qui est très compliqué, pour l'instant, on n'a pas véritablement depuis l'arrivée au pouvoir de Macron, de politique africaine au sens strict. Il y a une sorte de désintérêt par rapport à ces sujets. Bon, là, il y avait ce jour-ci une conférence à Paris sur le Covid et ses conséquences en Afrique. Mais enfin, tout ça se fait un peu au coup par coup. Il y a un conseil présidentiel pour l'Afrique qui regroupe quelques personnalités essentiellement française d'ailleurs, hein, mais d'origine africaine, mais ça va pas très loin, c'est-à-dire que il y a vraiment pas eu d'impulsion. On a pensé au début qu'il y en aurait une, peut-être, avec les premiers voyages présidentiels et tout, mais finalement il n'y a pas eu d'impulsion pour donner, j'allais dire, un cadre d'ensemble. Donc on peut pas vraiment dire qu'il y a une politique africaine aujourd'hui de la France. D'ailleurs, Macron l'avait presque revendiqué en expliquant à Ouagadougou qu'il se faisait applaudir sur le thème « il ne doit pas y avoir de politique africaine de la France ». Donc ça plaît toujours quand on dit ça aux Africains. En réalité, c'est une bêtise parce que...
Il y a forcément une politique de la France en Afrique.
C'est ça, mais c'est très très démagogique de dire ça. Mais il l'a dit, et d'une certaine façon, c'est une manière, c'est l'œuvre de Colomb, c'est-à-dire « ne me demandez pas une politique africaine puisque je ne veux pas en avoir ». Donc bon, bah, très bien. En réalité, malheureusement, c'est pas en dévissant le bouton rouge qu'on résout le problème du moteur. Et on a de toute façon la nécessité d'avoir une politique africaine. Mais puisqu'on a ces liens particuliers avec l'Afrique, à cause de l'histoire, à cause de nos intérêts en Afrique, à cause de la présence des communautés françaises en Afrique, africaines en France, etc. Donc tout ça fait qu'on n'a pas le choix. On est obligé d'avoir une politique africaine. Comme on n'a pas une politique d'ensemble, ben, on gère un certain nombre de contraintes. Et ces contraintes, elles sont très contradictoires. Par exemple, on a la contrainte de stabilisation du Sahel et notre intervention au Mali, finalement, personne ne la soutient, personne ne la relaye, ni les Américains tellement, ni les Européens. Donc, les seuls, finalement, sur qui on a pu compter, c'est les Tchadiens, et Déby en particulier, président Déby. Donc, quand il meurt, on est obligé d'avoir quand même la reconnaissance du ventre et d'aller, j'allais dire, à ses obsèques, parce que là, on est dans un champ particulier.
Est-ce que c'était au niveau du chef d'État ? Est-ce que la ministre des Armées n'aurait pas été le bon niveau pour...
Un autre problème, c'est que avec ces relations franco-africaines, c'est que pendant longtemps, la France-Afrique, c'était quoi ? C'était Focard, c'est-à-dire des relations qui partaient de l'Élysée et qui descendaient vers l'Afrique, si on peut dire. Hein. C'est-à-dire que la France cherchait à arrimer, à garder le contrôle d'un certain nombre de pays par l'intermédiaire de ses visiteurs du soir, de ses réseaux, etc. Ces réseaux venus de France, si je puis dire, Focard, ont un peu disparu, faut bien le dire. Ils existaient toujours sous Sarkozy. Avec Hollande, ils ont beaucoup été détruits. Aujourd'hui, ils sont pratiquement inexistants. Mais il y a d'autres réseaux qui vont dans l'autre sens. C'est-à-dire que pour les chefs d'État francophones, chefs d'État des pays africains francophones, le lien avec Paris est vital. Ils veulent ça. Et quand les sommets franco-africains ont été élargis, vous savez, au début, ils étaient réservés aux précarés, c'est-à-dire à nos anciennes colonies. Puis ensuite, ils ont été élargis, sous Chirac, etc. Ça a été élargi à l'ensemble du continent africain. Mais les Africains francophones ne sont pas d'accord avec ça. Et ils ont toujours demandé d'avoir leur petit sommet de famille à côté. Et un chef d'État africain, francophone, est prêt à payer très cher des intermédiaires, on en connaît quelques-uns, et même des costumes parfois, mais pour avoir ce contact privilégié. Et ce contact privilégié, il est toujours à l'Élysée. C'est ça qu'ils veulent. C'est-à-dire, en Afrique, c'est très très important, le leader local, qui peut se prévaloir d'aller serrer la main, surtout si un photographe, avec le président de la République française, il a un avantage sur les autres considérable. Donc les réseaux France-Afrique aujourd'hui, ils sont un peu dans ce sens-là, si vous voulez. Et je pense qu'il y a dû y avoir des pressions très très fortes pour que... Alors ça ne veut pas dire qu'il fallait accepter, mais pour que, du côté tchadien, si vous voulez, pour qu'il y ait une sorte d'adoubement du fils du président Déby grâce à une visite du chef d'État.
Mais finalement, vous dites qu'il n'y a pas... c'est du coup par coup. Finalement, Sarkozy démarre par le discours de Dakar, qui est un échec total. Hollande, par l'intervention au Mali, qui est un succès, mais maintenant, c'est l'enlisement. Mmh. Est-ce que finalement, si je te suis, est-ce que finalement, ce qu'il manque, c'est une politique africaine de la France? C'est qu'il n'y a pas une conception globale. Je veux dire qu'on ne fait pas de politique africaine, on a des liens avec l'Afrique, donc il y a bien une politique. Donc en fait, ce que tu dis un peu, si je comprends bien, c'est que il faudrait au contraire définir une politique africaine, et c'est cette absence de définition qui pèse.
Ben oui, parce que à partir du moment où il n'y a pas un cadre d'ensemble, où on n'a plus le désir de faire de l'Afrique un partenaire qui ne soit pas seulement jugé à l'aune de son poids économique, parce que c'est ce qui se passe un peu en ce moment. Aujourd'hui, l'Afrique ne pèse dans nos relations que finalement, on veut croire qu'elle ne pèse que son poids économique. Alors évidemment, son poids économique, il est très faible. Et même en tant que marché, etc., pour nous, c'est très faible. Mais en réalité, c'est plus que ça. Et il y a des aspects linguistiques, il y a des aspects, en effet, économiques, il y a des aspects migratoires, des aspects de sécurité qui sont très importants. Mais c'est pas nouveau. Moi, je veux pas accabler Macron, d'abord parce que c'est pas facile, et d'autre part, il y a eu un certain nombre de décisions un peu erratiques qui ont été prises avant lui. La plus dramatique, celle qu'on continue de payer, étant l'intervention en Libye. Je veux dire, l'intervention en Libye a été, on peut dire les choses comme elles sont, une catastrophe, et dont je trouve que le président Sarkozy est a posteriori lourdement responsable,
c'est-à-dire d'avoir... Parce que ça déstabilise le Mali, est en grande partie.
Exactement,
cause...
c'est-à-dire qu'on a créé un effet domino, mais il n'y a pas que le Mali, il y a même l'Égypte, la Tunisie, les migrants à travers la Méditerranée, enfin tout ça procède de l'explosion de la Libye. Moi, j'ai pas de sympathie pour Kadhafi, la question n'est pas là. Mais et quand il a commencé à massacrer sa population, bon, des printemps arabes, il fallait évidemment l'empêcher de le faire. Mais en refaisant un peu l'histoire de cette période, on voit bien qu'il y a eu d'abord une intervention, disons, limitée, qui consistait à l'empêcher de massacrer sa population, et puis tout d'un coup, c'est allé au-delà. Et tout d'un coup, il y a eu une autre volonté qui a été de détruire complètement ce régime. Alors, personne ne le regrette en tant que personnage, hein, Kadhafi, pas du tout. Mais il n'y a pas du tout eu avant l'idée de savoir par quoi on le remplacerait.
Et donc, on pourrait d'ailleurs ajouter à la liste des dommages collatéraux la Syrie, puisque le blocage russe en Syrie est largement dû au fait que les Russes ont estimé avoir été dupés en s'abstenant sur la résolution 1973.
Absolument. Mais cette affaire de Libye, je veux dire, elle a été prise, enfin, ces décisions-là ont été prises d'une façon comme ça, oui, erratique, sans considération de ce qui suivrait. Et évidemment, elles ont eu des conséquences. Cette décision a eu des conséquences absolument gigantesques sur l'ensemble de cette région. Quand je dis cette région du monde, ça va du Sahara, enfin du sud Maroc, je veux dire jusqu'au Soudan. Enfin, c'est vraiment toute cette zone qui a été complètement, j'allais dire, mise à sac en quelque sorte par cette intervention étourdie. C'est-à-dire avec cette idée que, heureusement, maintenant on n'a plus, mais qui valait à l'époque, c'est-à-dire, il y a un dictateur, on l'enlève, et très bien, ça suffit. Voilà, on s'en va, c'est terminé, c'est la démocratie.
Finalement, c'est un peu le même schéma que la guerre d'Irak de 2003.
C'est ça. Mais avec une espèce de naïveté qui consiste à penser que tout se passe à la tête et que finalement, par la suite, bien sûr, une fois cet obstacle levé, tout allait s'arranger. Or, évidemment, ça ne s'est absolument pas passé comme ça. Et après, il y a des conséquences de ça. Ça a été l'intervention française au Mali, qui, là, pour le coup, était une nécessité. Je veux dire, je pense que je reste persuadé qu'on a eu raison d'intervenir là-bas, de même qu'en Centrafrique. C'est-à-dire que, mais qu'est-ce qu'on a fait? On a fait que, d'une certaine façon, éponger un certain nombre de conséquences comme ça, périphériques, de cette erreur majeure qu'avait été l'intervention en Libye.
Mais maintenant, au Mali, c'est vrai que l'intervention a été initialement réussie, qu'elle a été saluée, qu'elle avait tous les feux verts juridiques internationaux, et que y a quand même un effet un peu d'enlisement. On se demande, l'horizon s'éloigne au fur et à mesure qu'on s'en rapproche. Et avec la nouvelle du retrait américain d'Afghanistan, est-ce que tu penses qu'il n'y a pas encore plus de questionnement sur l'avenir de la présence militaire au Mali et au Sahel, avec une absence de résultats et même une absence de perspective de résultats?
Oui, mais alors c'est là où si tu veux, il y a quand même un. C'est là où se ressent justement cette absence de politique d'ensemble. C'est-à-dire que, bon, on a fait à un moment donné une action militaire, bon, elle était justifiée, je pense, elle était nécessaire pour empêcher l'arrivée au pouvoir des islamistes dans cette région du monde. Maintenant, pour aller au-delà, qu'est-ce qu'on veut? C'est-à-dire, on va s'appuyer sur qui? C'est ça là où c'est. Or, il n'y a pas véritablement d'avancée dans ce domaine, ni sur le plan international. C'est-à-dire qu'on n'a pas réuni, parce que il serait quand même intéressant maintenant, notamment avec l'arrivée de Biden, etc., de dire, y compris aux Américains, hein, et même aux Russes d'ailleurs, est-ce que réunissons-nous, savoir qu'est-ce qu'on veut dans cette région du monde? Est-ce que vraiment on accepte à terme un retrait et le remplacement par des gens qui seraient des talibans locaux, en pire, parce que c'est, je veux dire, ils sont quand même. En Afghanistan, il y a quand même eu la présence américaine très longue, etc., a quand même tissé. Ça n'empêchera pas le retour des talibans, mais je pense quand même qu'il y a eu une certaine forme de contrôle aujourd'hui. Il y a des gens qui. Il y a un effet quand même. Je pense que l'Afghanistan d'aujourd'hui n'est pas exactement celui du moment de l'intervention. Je pense que les Américains partent militairement, mais qui vont garder quand même tout un réseau d'influence. Enfin, je l'espère, je pense. Mais là, si effectivement personne ne prend le relais, personne ne nous soutient, à terme, partira. On partira et on aura quoi? Ben on aura effectivement un chaos absolument total dans toute une région du monde. C'est l'intérêt de personne. Même les Chinois, c'est pas leur intérêt. Les Chinois qui ont toujours dissocié économie et action militaire, action diplomatique, bon, ils ont une politique de séduction en Afrique. Alors, ils ont une politique africaine, hein, bien sûr, mais elle est très économique. Je suis pas sûr qu'ils aient très envie d'avoir en face d'eux des islamistes, des pays en ruine. Donc finalement, il y a un certain nombre d'intérêts internationaux qui pourraient être mobilisés pour réfléchir à l'avenir de cette région du monde. Là, pour le moment, on est que dans notre toute petite intervention avec nos petits alliés, G5 Sahel qui vont, voilà. C'est dommage. Et localement, pareil. C'est-à-dire que localement, je pense que les pays voisins n'ont pas du tout intérêt à voir effectivement se déstabiliser de nouveau toute cette région.
Alors, tu as commencé ta carrière dans l'humanitaire, tu as été un des pionniers en France de ce qu'on appelait les French Doctors, l'aventure humanitaire française. Quel regard portes-tu maintenant sur l'action humanitaire? Il y a un débat récurrent, l'humanitaire d'État, l'humanitaire associatif, et ça a été quand même un élément très important de la politique extérieure française, même s'il n'était pas dirigé par le gouvernement. Quel regard portes-tu aujourd'hui sur l'action humanitaire? Est-ce que tu as le sentiment qu'il y a un peu un reflux, que c'est moins important que ce ne l'a été, que ça suscite moins d'enthousiasme que ce n'a suscité il y a une vingtaine d'années?
Bah, non, je pense que chez les jeunes, c'est toujours quelque chose qui est très, très valorisé. C'est une activité porteuse de sens qui continue à susciter de véritables vocations. C'est très important pour beaucoup de jeunes de s'engager dans ce militantisme. Mais là où les choses ont changé, c'est qu'il est beaucoup moins lisible qu'avant. Il est beaucoup moins lisible pour plein de raisons. D'abord parce que pendant toute la période de guerre froide, par exemple, il y avait les bons, les méchants. L'humanitaire, finalement, était le bras armé, ou pas armé, mais le bras, au contraire, je veux dire, de secours, je dirais,
l'infirmier qui précédait le soldat.
Voilà, de l'Occident. Mais tout ça était en phase. C'est-à-dire que quand on allait au secours, par exemple, des réfugiés qui fuyaient les Khmers rouges, d'une certaine façon, ben, on était à la fois du côté, finalement, des intérêts occidentaux, et d'un autre côté, on faisait le bien. Donc tout ça était très lisible. Puis les conflits eux-mêmes étaient lisibles. Ce qui est évidemment arrivé progressivement au cours de ces 20 dernières années, c'est la dislocation de cette lecture des conflits. Les conflits sont devenus de plus en plus, depuis le Libéria en fait, hein, sont devenus complètement éclatés, c'est-à-dire que vous n'avez pas, il n'y a plus d'un côté, alors les bons, les méchants, n'en parlons pas, c'est même pas la question, mais il y a une espèce de chaos, de factions, etc., dans lequel la lisibilité, j'allais dire, du conflit est très très difficile. Et ce qui d'ailleurs a entraîné une dangerosité aussi, ce qui fait qu'on a c'est une réduction du nombre de terrains où il est possible d'intervenir, parce que on peut pas envoyer des gens dans des endroits où on ne contrôle rien et où ils vont se faire massacrer. Donc voilà. Mais s'ajoute à ça une dernière chose, et plus récente, c'est le fait que l'humanitaire, c'était quoi? C'était le fait pour l'Occident, et notamment pour l'Europe, notamment pour la France d'aujourd'hui, de se porter au secours du reste du monde. Bon. Ce que nous, finalement, on n'a pas pu faire pendant longtemps, parce que c'est nous qui recevions avant l'aide, hein, après toutes les guerres mondiales, c'était nous qui recevions l'aide. Dans les années 70, on a commencé à être suffisamment riche, suffisamment en paix pour aller aider les autres. Bon. Donc, finalement, c'était simple. Ici, il y avait les moyens. Et ailleurs, on trouvait les guerres. Les guerres étaient loin, les réfugiés étaient loin, les épidémies étaient loin, etc. Mais depuis, on peut dire, peut-être le 11 septembre, mais en tout cas depuis Charlie Hebdo, etc., on voit que la guerre, elle est aussi ici. Hein. Avec la pandémie, on voit que les épidémies sont aussi ici. Et il suffit de sortir sur le boulevard Stalingrad pour voir que les réfugiés, ils sont aussi ici. C'est-à-dire que cette vision d'un humanitaire lointain où on allait faire le bien et où le bon docteur blanc, finalement, allait soigner des pauvres noirs, tout ça est totalement volé en éclats, puisqu'aujourd'hui, nous sommes, pour le malheur, notre malheur, mais c'est comme ça, rattrapé par l'histoire, et que finalement c'est nous qui avons ces guerres et ces drames chez nous. Ce qui fait que l'humanitaire a tendance à se déplacer aujourd'hui, c'est-à-dire que avec les mêmes institutions ou d'autres, mais on va s'occuper non pas de choses qui sont loin, mais d'affaires qui nous concernent directement. Et ça va être les migrants en Méditerranée, ça va être les Restos du Cœur, ça va être voilà. C'est-à-dire que l'humanitaire finalement n'est plus quelque chose qui est du ressort des relations internationales, mais c'est aussi quelque chose de
à n'importe quoi. Parce que soit en tant qu'écrivain, soit en tant que diplomate ou en tant qu'humanitaire, tu connais bien les différents responsables politiques français. Est-ce que tu penses pas qu'il y a un déclin de l'intérêt de la question internationale parmi les responsables politiques en général?
International, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une sorte de... Comment dirais-je? C'est peut-être lié à la personnalité du président de la République. Mais en tout cas, on a l'impression que l'international n'existe et ne pèse que le poids économique, selon le poids économique des pays concernés. C'est-à-dire que nos relations avec les États-Unis, avec la Chine, avec, notamment avec le Moyen-Orient, etc., ça intéresse. Le Brésil, l'Afrique, le Sud-Est asiatique, dans les pays qui sont, je ne parle pas des dragons, des pays riches de coin, mais ça a un petit peu diminué. C'est-à-dire que il y a une sorte de la relation internationale aujourd'hui, me semble-t-il, hein, c'est une vision un peu bancaire, c'est-à-dire c'est combien tu pèses, quoi, combien tu pèses, combien tu payes, quel marché tu représentes, etc. Ça c'est...
Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi chez la plupart des élus le fait de dire que l'international ça rapporte pas électoralement? Il y avait beaucoup plus il y a une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, il y avait quand même beaucoup plus d'élus qui s'intéressaient à ces questions. Ou est-ce que tu partages ce constat ou pas?
Oui, mais alors pour les raisons qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que il y avait une sorte de bienveillance à manifester pour le monde. Donc on voyait des élus locaux, par exemple, qui venaient faire de la coopération régionale, etc., localement. Mais aujourd'hui, les problèmes sont tels en France que finalement, même le public, d'ailleurs le grand public, quand on le sollicite, financièrement pour, quand les associations les sollicitent, c'est très difficile aujourd'hui d'éveiller de l'intérêt pour ce qui se passe, je sais pas moi, dans les jungles de Birmanie, je veux dire, même si c'est dramatique ce qui s'y passe, alors que il va y avoir un porte à côté, je veux dire, des migrants, des mineurs non accompagnés, du terrorisme, etc. chez nous. Et donc il y a vraiment un déplacement vers les problèmes domestiques, mais qui sont aussi des problèmes internationaux quelque part. Mmh. C'est-à-dire que c'est, je veux dire, l'international est revenu, si j'ose dire, à la maison. Mmh. On le trouve ici.
Merci Jean-Christophe Ruffin pour ce tour d'horizon de la France en Afrique et également des problématiques internes et internationales auxquelles nous sommes confrontés.
Merci à toi.